Bonsoir. Il s'observe depuis quelques jours une reprise et multiplication des attaques des positions des FRDC et des populations civiles par l'EDF dans la région de Beni, au nord Kivu. Le député national Paul Mouindo, élu de Beni, dénonce et parle de plus de 53 civils tués ces deux dernières semaines. La société civile de ce territoire relève quant à elle qu'à ce jour, au moins 2719 personnes ont été sauvagement tuées au cours des cinq dernières années. De son côté, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord affirme que ces attaques sont perpétrées par l'EDF qui s'est mué en un mouvement djihadiste appelé MTM. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 7 août 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Kerline Dzanzou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, madame Thierry. Bonsoir. Bonsoir, aux auditeurs.
Merci. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial élu de Lubero, il est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Côté. Bonsoir à tous les co-débatteurs.
Et Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense de droits de l'homme basé à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre à Beni au Nord Kivu sous la 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Province du Nord Kivu, ce qui se passe à Beni est la pire période de l'histoire de notre pays. C'est en ces termes que la société civile de Beni qualifie les tueries des civils qui prévalent dans cette région depuis 5 ans maintenant. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, cette structure citoyenne appelle à la protection des populations civiles face à une situation qu'elle qualifie des violations massives de droits de l'homme, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Martial Papimukeba pour les détails.
Tuer des personnes à la machette ou à la hache, éventrer des femmes enceintes, broyer les têtes des enfants à les cognant contre les murs sans la moindre pitié, tels sont les actes macabres que vivent depuis 5 ans les populations de Beni, a dit d'entrée la société civile de la région dans sa lettre ouverte adressée au président de la République. Cette structure citoyenne révèle qu'à ce jour, au moins 2719 personnes ont été sauvagement tuées et plus de 2897 autres kidnappées au cours des différentes attaques armées, ce qui représente selon elle, une moyenne de 57 civils tués par mois à Beni. La société civile qui dit que ces tueries constituent la pire histoire de la RDC s'est dit consternée par la faillite de l'État congolais à protéger les populations civiles. Cette structure citoyenne dit lancer un appel au président Félix Tshisekedi, à l'ONU, à l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et à tous les États et amis du peuple congolais en fait de trouver les mécanismes qui permettent de protéger les populations de Beni contre les très graves périls auxquels elles sont exposées. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimukeba. Du côté des FRDC, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord annonce que l'EDF s'est déjà mué en un autre groupe armé appelé MTM. Selon le général-major Marcel Mbangu, ce groupe armé est composé des combattants des différentes nationalités et qui évite ses positions des FRDC basées dans la brousse du territoire de Beni s'attaque aux populations civiles pour discréditer l'armée, le gouvernement et la MONUSCO. On l'écoute au micro, encore une fois, de Martial Mukeba.
Pourquoi l'intensification des incursions dans les agglomérations et contre les populations civiles? Les MTM éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne le ravitaillement. La plupart des otages qu'ils ont pu libérer ne nous viennent qu'avec le même message. Ils sont en difficulté de se nourrir. Ils évitent, je dois vous le dire, parce que les positions FRDC déployées dans la profondeur ne sont plus jamais attaquées. Ils ont préféré plutôt la cible civile de manière à discréditer les gouvernements et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas la MONUSCO? L'ADF n'a plus le sens d'être. Et par le passé, tous nous savions que c'était des ADF. Aujourd'hui, nous allons parler de Madina Al-Tawhid Wal Mujahideen. C'est le mouvement qui nous attaque. Et c'est le mouvement qui est en contact avec l'État islamique. La raison de créer ce mouvement était d'approcher l'extrémisme international de manière à obtenir des aides. Les aides peuvent être financières ou les combattants qui doivent partir de tous bords pour les rejoindre dans cette forêt. Et j'ajoute, les ADF étaient composés des Ougandais. Ce mouvement qui nous combat aujourd'hui est composé d'un bon nombre de gens qui viennent de plusieurs pays de la région, à savoir le Burundi, la Tanzanie, quelque peu au Rwanda. Nous avons les Ougandais, certainement ils kidnappent et ils recrutent en RDC. Nous avons la présence de quelques arabes, nous avons des informations comme quoi ils sont allés plus loin, même jusqu'au Mozambique.
C'était là le général-major Marcel Mbangu, commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Kerline Zanzou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire toujours préoccupante à Beni, malgré l'opération Sokola 1, 53 civils tués ces deux dernières semaines, selon les députés Mouindo. Comment vous expliquez cette situation?
Oui, bonsoir Kelly, bonsoir à le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Lumbulumbu. Ce qui est vrai, comme je l'avais dit tantôt dans une des émissions que j'avais faites à la radio Capi, la situation du Nord Kivu reste très très fragile en ce qui concerne la guerre des EDF Malou, mais aussi des RDR. Parce que nous parlons sécurité, il est vrai que toutes les morts enregistrées en province du Nord Kivu, toute la criminalité organisée au Nord Kivu ne sont pas les fêtes des ADF. Aujourd'hui, vous venez de suivre le général Marcel Mbangu, qui est le commandant des opérations Sokola 1, qui a les renseignements possibles pour les opérations dans la région de Beni. Il a éclairé les raisons pour lesquelles il y a des attaques contre les civils aujourd'hui. Les informations que nous détenons comme autorité civile concorde avec les détails que vient de donner le général qui commande les opérations à Beni. Nous sommes renseignés aussi que les EDF Malou qui se mettent aujourd'hui à des mouvements qui s'attaquent aux civils, qui créent la terreur au niveau de notre province, qui créent la terreur au niveau de la République, sont à la recherche effectivement aujourd'hui des denrées alimentaires. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir ces EDF opérer dans les régions traditionnellement qui étaient calmes, comme le village de Kisima, où ils ont tué déjà et qui n'ont plus de personnes. Vous pouvez les voir aller vers l'ouest de la route.
Monsieur le gouverneur, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour améliorer la qualité?
Effectivement, je sais qu'il y a un problème de connexion de Vodacom aujourd'hui, mais je crois que c'est la connexion. Mais je suis serein par rapport à ma position. Je disais que nous partageons l'ensemble des analyses du général Marcel Mbangu qui contrôle effectivement la région de Beni, où les informations concordantes nous données par les sources civiles mais aussi militaires renseignent que les EDF se déplacent dans les régions qui étaient plus ou moins calmes, telles que le secteur de Rwenzori, au niveau de Kisima, où ils ont tué des personnes sur la route, mais aussi kidnappé d'autres et tué les biens de la population.
Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement est plus fort que nos FRDC? On sait qu'il y a des opérations qui se font là-bas. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à maîtriser ces éléments ou ces rebelles? Hein?
Si vous voyez les tableaux présentés par la société civile, même par d'autres sources, vous allez constater que généralement sur la route Beni-Kamango, il se passe pratiquement 2 mois qu'il n'y ait pas des attaques, qu'il n'y ait pas des informations sur les tueries de la population civile.
Et c'est la raison pour laquelle je confirme effectivement les évidences soulevées par le général Marcel, qui font état de la recherche de la restauration par les ADEF. Ils cherchent à avoir des médicaments, ils cherchent à avoir à manger. C'est la raison pour laquelle ils se sont attaqués dans des positions plus ou moins calmes où ils peuvent trouver des boutiques, ils peuvent trouver des pharmacies, où ils peuvent trouver des sacs d'haricots, des riz à amener dans leur campement.
Et dans ces zones calmes qu'ils attaquent, il n'y a pas une présence militaire?
Et ce qui est vrai, comme je l'avais tantôt dit, on ne peut pas avoir chaque militaire sur un millimètre du territoire national. Nous avons des positions concentrées sur les zones qui se présentent plus de risques. Évidemment, nous, la sécurité prime sur tout. Nous allons réorganiser ensemble avec l'armée, nous allons discuter pour que l'armée prenne en charge ces zones qui deviennent de plus en plus menacées. Mais l'armée était concentrée sur l'épicentre, la zone que nous appelons la zone où les ADF tuaient chaque jour, se promenaient chaque jour, et le triangle de la mort, comme la population de Beni le dit, le FARDC s'est concentré à ce niveau-là. Tout en sachant effectivement que les criminels peuvent faire mal à toute population s'ils en ont l'occasion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la question des ADF est en train d'être étudiée sérieusement par le pouvoir central, par l'armée, et nous passerons effectivement que toutes les démarches entreprises par l'autorité suprême de l'État vont arriver à étouffer ces ADF dans un périmètre qui ne vont plus les permettre de survivre et qui pourrait effectivement nous amener à passer l'histoire des tueries par les ADF dans la zone de Beni.
Alors, près d'un millier d'habitants de la commune rurale d'Oïtch en territoire de Beni a manifesté ce mercredi justement contre cette insécurité à Beni. Ils demandent au président de la République, à la communauté internationale, notamment la MONUSCO, de pouvoir assumer pleinement leur responsabilité de protéger la population contre les très graves périls auxquels elles sont exposées. On a l'impression, cette population a l'impression d'être abandonnée 5 ans. Que cette guerre ne finit pas. Il y a quand même beaucoup de questions qu'il faut se poser.
Ah, ce qui est vrai, tant qu'on est meurtri, la colère a sa raison d'être. Mais ce que j'ai toujours dit, nous avons comme État, la République démocratique du Congo, la responsabilité de protéger notre population. Et ce qui est vrai, la population de Beni, que ce soit de Oucha, est meurtri, est attaqué par ces groupes armés de temps en temps, et vous allez voir même ces militants pour n'attaquer que les civils. Ils n'ont pas attaqué les camps des militaires pendant un certain moment. Ils sont en train effectivement de chercher à multiplier la terreur, mais les informations que nous avons au niveau de l'armée, au niveau de l'autorité politique, les FARDC sont en train de se préparer sérieusement pour contenir les attaques des ADF autour de la zone de Beni. Mais la guerre des ADF, je l'ai déjà dit, n'a pas commencé pendant 5 ans. Il y a longtemps.
Merci, monsieur le gouverneur.
Il y a 20 ans que nous sommes dans la guerre au niveau de la province du Nord-Sud.
Merci, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial élu de Lubero. Vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Comment vous analysez cette situation, Maître Lumbulumbu?
Merci beaucoup, Kelly, pour la parole. Je m'en voudrais de ne pas saluer son excellence, monsieur le gouverneur Ngongo Kasivita, ainsi que monsieur Dismas Kitengi. Je m'en voudrais en deuxième lieu de ne pas adresser d'abord toutes mes compassions, ma solidarité aux familles des victimes qui ont été la cible de ces attaques de groupes armés qui équipent le territoire de Beni. Je suis tout à fait d'accord d'une part avec le gouverneur lorsqu'il qualifie la situation de fragile. Il est vrai que la situation est très très fragile depuis 2014. les massacres, les tueries ont commencé dans le territoire de Beni. Mais de 2014 à 2019, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouverneur lorsqu'il pense que le pouvoir de Kinshasa doit continuer à étudier. Je me rappelle qu'en date du 20 octobre 2014, lorsque les massacres ont commencé à Beni, nous en étions encore à 80 victimes. Je me rappelle que, encore une fois, là, j'étais encore en dehors des institutions. Nous avons organisé des alertes, même des journées villes mortes, pour demander au pouvoir de s'impliquer. Et il en est suivi la descente du président Joseph Kabila dans le territoire de Beni. Des commissions parlementaires sont arrivées à maintes reprises dans le territoire de Beni. Des descentes des membres du gouvernement ont été maintes fois effectuées dans le territoire de Beni. Je ne voudrais pas croire que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait qu'étudier la question des ADF Nalou, alors que la société civile nous parle de plus de 2719 personnes tuées aujourd'hui. Mais d'autre part, lorsque le commandant de l'opération Sokola 2 nous parle aujourd'hui de la mutation des ADF Nalou vers un mouvement, moi je me demande quel est l'intérêt pour l'opération Sokola de communiquer ça aux populations, parce que qu'il s'agisse des ADF Nalou ou de ces mouvements dont parle le commandant Sokola, le commandant des opérations Sokola, je crois que le mode opératoire reste le même que celui des ADF Nalou. Et moi, je me pose la question à la place de ces victimes de massacres, où est la différence entre le mode opératoire des ADF Nalou et le mode opératoire de ces mouvements dont parle le commandant Sokola. Donc, à mon avis, pour la population, il n'y a aucun intérêt de différencier l'un ou l'autre. Si au niveau stratégique, pour adapter le mécanisme de riposte, il y a intérêt à examiner la mutation du groupe, mais pour la population, pour les victimes, il s'agit de mais du même mode opératoire. Il s'agit des victimes qui sont en train de tomber. Ce sont des vies humaines qui continuent à être tuées. Donc à ce niveau-là, à mon avis, je ne vois aucun intérêt.
Alors, vous avez suivi, excusez-moi, Maître Lumbulumbu, le général-major Mbangu et même le gouverneur qui l'a appuyé en disant que ce groupe a changé de stratégie. Ces rebelles s'attaquent beaucoup plus maintenant aux civils plutôt qu'au FRDC. Ils choisissent d'attaquer dans des coins où c'est assez calme, où il n'y a pas une forte présence militaire.
Évidemment, lorsque nous essayons de voir le nombre de victimes de civils qui ont été tués par les ADF Nalou, 2719 civils tués, Madame Kelly, c'est énorme. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas d'intérêt pour la population qu'on différencie les ADF Nalou de ces mouvements. L'essentiel pour la population du territoire de Beni, c'est que le gouvernement prenne les problèmes à bras-le-corps. Vous savez, Madame Kelly, nous avons déjà été habitués à des discours. À l'époque du président Kabila, il y a eu beaucoup de promesses faites à la population du territoire de Beni de ramener la paix dans le plus bref délai. Aujourd'hui, c'est le président Étienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir. Et moi, je refuse de croire aujourd'hui que le président Félix-Antoine Tshisekedi a oublié, par exemple, qu'il a promis qu'il se sentira véritablement chef de l'État que lorsque le Nord Kivu va recouvrer la paix et la sécurité. Je me demande en ce moment, lorsque, par exemple, avant-hier, on a tué 3 personnes à Kisima, non loin du pont Semliki. On a incendié un camion en 1924. On a emporté plusieurs biens et que le président de la République l'a appris. Je me demande comment il s'est senti, parce que la situation sécuritaire, comme l'a dit le gouverneur, continue à être très très fragile. Moi, je crois qu'il est temps qu'on puisse maintenant passer aux actions. Et les actions demandent à ce qu'après 5 ans d'analyse, d'études, qu'au niveau du gouvernement, on puisse prendre les problèmes à bras le corps et qu'on puisse imaginer des stratégies sur le plan diplomatique et sur le plan interne pour que enfin la population du territoire de Beni puisse recouvrir la sécurité et la paix. C'est ça que la population attend. La mutation de tel nom à tel nom, ça intéresse trop peu la population du territoire de Beni. C'est plutôt le retour immédiat et rapide de la sécurité et de la paix qui intéresse au plus haut point la population de la ville de Beni. Je me rappelle même qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les honorables députés provinciaux ont mené des démarches pour approcher les intervenants dans la chaîne de sécurité. La 34e région militaire, l'opération Sokola,
le gouverneur de province pour essayer de réfléchir sur quels sont vraiment les vrais mécanismes pour que les territoires de Beni recouvrent la paix. Les territoires de Lubero où il y a des groupes armés internes, les territoires de Niragongo, des Massifs et de Walikale, pour que enfin le Nord Kivu puisse respirer. Mais jusque-là, il me semble que, comme l'a dit le gouverneur, on continue à étudier, et moi, en tant qu'élu, je ne suis pas d'accord que 5 ans après, on soit toujours en train d'étudier les mécanismes pour restaurer la paix de la province du Nord Kivu.
Merci, maître Jean-Paul Lumbu Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, en sigle. Quelle est votre lecture par rapport à la situation sécuritaire de Beni, une situation qui ne s'améliore pas, la population continue à être massacrée. Comment vous analysez ça, maître Dismas Kitenge?
Merci beaucoup, madame, qui l'écoutait. Après avoir pris du temps pour suivre ce problème, l'étudier, et après avoir entendu les intervenants de tout à l'heure, l'excellence monsieur le gouverneur du Nord Kivu et le vice-président de l'Assemblée, à mon sens, il se dégage 6 problèmes majeurs qui expliquent un peu cette crise sécuritaire au Nord Kivu et principalement dans le nord, dans le Grand Nord. Il s'agit d'abord de manque de maîtrise de la nature des assaillants et de leur mode opératoire. Ici, nous sommes en face d'un mode opératoire de guérilla. Ils font parfois la guérilla urbaine, guérilla rurale, et nous avons entendu les uns et les autres, même le général, dire que voilà, les assaillants, il y a une mutation dans la nature. Ça dénote clairement manque de maîtrise de nos forces de sécurité, de nos forces de défense, de la nature des assaillants et de leur mode opératoire, puisqu'il s'agit de la guérilla. Deuxième problème, c'est la faiblesse des forces de sécurité et de défense, de leurs moyens. Les moyens et les stratégies. Les moyens ne sont pas bien utilisés ou ils sont insuffisants. Il y a aussi un problème de stratégie. Quand vous êtes devant les assaillants qui changent de stratégie, de mode opératoire, il faut que nos forces de sécurité et de défense puissent avoir aussi les moyens conséquents pour pouvoir faire correctement leur travail. Aujourd'hui, il y a des moyens technologiques importants qu'on doit utiliser, les drones, les satellites, les autres moyens de technologie importants qui peuvent permettre à identifier clairement ces assaillants, à savoir aussi mettre en place les stratégies qu'il faut. Alors je ne sais pas s'il se pose un problème au niveau de nos troupes pour s'adapter ou utiliser tous les moyens nécessaires, les moyens humains, les moyens technologiques, ou si ces militaires sont suffisamment motivés. Il y a troisièmement le problème aujourd'hui des communautés et des populations locales dans la recherche de solutions à ces problèmes-là. Puisque les victimes sont les communautés, sont les populations locales. Et les populations locales savent comment aussi trouver des solutions. Et je pense que depuis qu'il y a cette crise-là, on n'a pas suffisamment, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu, mais pas suffisamment une implication des populations pour avoir leurs idées, pour aussi les doter des moyens nécessaires, tant soit peu, pour rapidement alerter les autorités. Il y a aussi un problème d'impunité. Quand je parle d'impunité des auteurs, des complices, nous sommes en train de voir qu'il y a une crise des droits de l'homme. Il y a des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui se commettent là, mais il n'y a pas d'institution judiciaire qui donne des réponses déjà en termes de poursuites contre toutes les personnes qui sont impliquées de loin ou de près. Il n'y a pas qu'au niveau national, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont des crimes universels, des crimes de masse qui doivent interpeller toute la communauté internationale. Là aussi, les institutions judiciaires internationales devaient déjà s'intéresser, commencer à faire des enquêtes pour essayer de donner des pistes. Il y a aussi un problème important, c'est le problème politique. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté politique, mais il y a une faiblesse d'engagement politique. Il n'y a pas un engagement politique fort de la part des autorités congolaises pour essayer de résoudre ces problèmes, de mettre tous les moyens politiques, des moyens économiques, financiers. Mais enfin, il y a aussi les problèmes de la coopération. Coopération non seulement avec les autorités congolaises
toutes les communautés, mais aussi coopération sous-régionale. Je pense que la crise n'est pas seulement nationale, elle est déjà sous-régionale. Hein, nous connaissons le phénomène ADEF, les groupes armés, ainsi de suite. Donc il faut impliquer les pays de la région, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, tous nos voisins pour résoudre ces problèmes. Donc c'est un problème qui doit être approprié au niveau de la de l'Union africaine, au niveau de la communauté internationale. Donc à mon sens, s'il y a véritablement conjugaison de tous ces six moyens au niveau de l'analyse, au niveau des solutions, il y a moyen qu'on arrive à quelque chose.
En parlant de la coopération sous-régionale, on a vu l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, rencontrer ses homologues du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, pour essayer justement de trouver une solution par rapport à cette situation.
Mais ça ne suffit pas, Madame Kérikouté, c'est un premier contact qu'il faut le faire. Son prédécesseur l'avait fait aussi. Mais il faut une véritable coopération militaire même. Il faut une véritable mise ensemble de moyens. Des moyens en termes même de coopération au niveau des services de renseignement. Les renseignements ougandais étudient déjà les problèmes. Les renseignements congolais, le renseignement rwandais, le renseignement Union africaine, tous les pays voisins, pour qu'on s'approprie et qu'on mette en place le moyen ensemble, les moyens humains, les moyens militaires, les moyens logistiques, les moyens économiques pour résoudre ces problèmes-là qui affectent la sous-région, qui déstabilise aujourd'hui la sous-région des Grands Lacs et la coopération internationale et sous-régionale.
Alors, la société civile estime que la communauté internationale, la MONUSCO, ne s'implique pas suffisamment dans cette affaire des EDF, n'apporte pas suffisamment de renforts ou n'assiste pas suffisamment les FRDC. Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, en partie, et pas totalement, je dis en partie, puisque en fait la MONUSCO est là, elle essaie d'apporter quand même sa contribution. Il y a ce problème de la résolution. Donc la MONUSCO ne pourra pas faire tout le travail seule. La MONUSCO, avec les forces de la MONUSCO qui sont là, sont en appui des forces congolaises, militaires congolaises, des forces de sécurité. La MONUSCO vient les appuyer. Mais je disais en partie, la MONUSCO est là, elle fait son travail. Mais en partie, lorsque je dis que la MONUSCO ne devrait pas faire tout, puisque la responsabilité première incombe d'abord aux forces de sécurité, mais ce que la MONUSCO devait faire, c'est que nous avons la brigade d'intervention spéciale qui n'a pas encore été dissoute. Nous avons vu comment cette brigade a donné des résultats contre les M23, mais il faudrait qu'aujourd'hui, cette brigade d'intervention de la MONUSCO s'implique davantage dans la situation de Béni et de ses environs.
Merci.
Avec ou sans appui de la FARDC, elle fasse le travail. Et il faut donner le moyen nécessaire à cette brigade d'intervention de la MONUSCO.
Merci.
Il doit être une force de réaction rapide.
Merci Dismas Kitenge. Monsieur le gouverneur Karli Ndjanzou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Je m'appelle Albert Kolembela Bokumba depuis Kisangani. La résurgence de tuerie de population dans la partie est du pays par les ADF Nalu et d'autres groupes armés est un problème urgent qui nécessite non seulement une intervention militaire, mais plutôt politique, car cette situation dépasse ses limites. À mon humble avis, le gouvernement doit faire une étude en amont pour connaître les causes de ces attaques afin de proposer les solutions palliatives en aval pour trouver la paix dans cette partie, car les populations ont beaucoup souffert.
Monsieur le gouverneur, comment vous réagissez à ce que vient de dire cet auditeur de Kisangani, mais aussi au propos de Maître Jean-Paul Lumbulumbu et de Dismas Kitenge?
Oui, merci bien. Je voudrais saluer l'intervenant Albert par rapport à sa proposition intervention militaire urgente. Je suis tout à fait d'accord que quand la situation sécuritaire est fragile, il faut envisager des opérations militaires. Je suis aussi d'accord qu'il faut une dimension politique en ce qui concerne les groupes locaux. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui envisager des solutions politiques à l'interne avec les EDF Nalu. Il faut envisager des opérations militaires, accentuer la pression sur ces groupes et arriver d'arrêter leurs crimes qui sont en train de commettre sur la population congolaise. J'ai sali la proposition de la coopération soulevée par Bismarck Kitenge parce qu'en fait, comme vous avez bien suivi le général de l'armée, il y en a plusieurs nationalités au sein de ce groupe ADF. Nous trouvons des Mozambicains, nous trouvons des Kenyans, nous trouvons des Rwandais, des Ugandais. Donc il y a lieu de mutualiser les renseignements militaires au niveau de la sous-région pour empêcher que ce groupe ADF ait la possibilité de recruter partout dans les pays qui nous avoisinent, mais aussi au-delà même des pays qui nous avoisinent. Donc il y a lieu effectivement d'encourager le gouvernement dans sa diplomatie qu'il a entamé autour de la région, mais aussi au-delà de la région, pour que les renseignements puissent nous aider à arrêter l'aventure meurtrière de ce groupe armé ADF qui a commencé depuis très longtemps à tuer la population à Bénin, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc la République doit rester très consciente que nous sommes toujours attaqués par ce groupe et qui est moyen effectivement de mutualiser la force avec les pays voisins pour que nous puissions arrêter ces bandits. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, que nous ne pouvons pas rester au stade de l'étude. Moi, je n'ai pas dit qu'on est au stade de l'étude. J'ai dit que là, les forces armées sont en train d'étudier la possibilité d'élargir les champs sécuritaires au niveau de l'espace qui n'était pas pris en compte comme priorité. Mais aussi, nous devons toujours encourager notre armée à continuer à traquer à profondeur ces ADF pour qu'ils n'aient pas la possibilité d'aller vers des espaces plus sécurs, des espaces plus vitaux pour s'approvisionner en outils pour aussi en médicaments.
Alors, il y a cet auditeur, Jean de Dieu Lusenge, qui dit ceci, pour que la paix revienne à Béni, il faudra que les autorités relèvent d'abord les troupes sur terrain, ensuite évaluer la stratégie de l'opération Sokola. Et quant à la MONUSCO, elle doit appuyer réellement les FRDC.
On ne peut pas refuser de continuer à faire les évaluations, mais aussi de relever, c'est tout à fait normal. Quand une troupe fait la guerre pendant 6 ans, on est humain, elle peut être limitée en termes de force physique, de la fatigue. Mais les questions de relever les militaires, ça dépend de leur commandant qui apprécie leur efficacité. Nous avons encore besoin, effectivement, de ce soutien de la population dans cette guerre des Indiens. Comme vous le savez, une guerre se gagne avec la population. Nous sommes tout à fait ouverts à des propositions, mais ces propositions doivent rencontrer effectivement l'intérêt de la République. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des propositions juste pour décourager l'armée, juste pour essayer de dire...
On a un souci.
Le commandant n'est pas efficace.
On a un souci avec votre ligne, monsieur le gouverneur. La réalisation va vous rappeler maître Jean-Paul Lumbu Lumbu. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mambasa.
Edo depuis Mambasa en province de l'Ituri. Trop, c'est trop. Face à l'incapacité notoire des forces de sécurité étatiques et celle de la brigade onusienne à rétablir la paix en territoire de Beni, la population ne sait plus à quel sens se vouer. Que de promesses improductives de la part des autorités congolaises depuis belle lurette. Entre-temps, on continue à compter des morts. Indéniablement, l'État congolais premier responsable de la protection des personnes a failli à l'une de ses principales missions régaliennes et c'est bien triste. Ce faisant, j'invite instamment le président de la République, garant de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police, à traduire ses promesses électorales en actes. Aussi, la communauté internationale doit sérieusement se remettre en question suite à son intervention non satisfaisante en territoire de Beni depuis des années et envisager d'autres mécanismes pour venir à bout de cette situation macabre qui n'a fait que trop durer.
Maître Lumbu Lumbu.
Je partage totalement le point de vue de l'auditeur. Trop, c'est trop. Béni, on a beaucoup tué. Nous continuons à compter les morts. Nous allons compter les morts jusqu'à quand, Madame Kelly? Je me pose une question. Bismarck Kitenge a fait allusion à un élément très important, c'est la volonté politique.
Je crois qu'au niveau des institutions politiques ainsi qu'au niveau des animateurs, nous devons nous interroger véritablement sur la volonté politique vraiment de mettre fin au phénomène groupes armés dans la province du Nord Kivu. Je voudrais faire une petite transposition, madame. Si vous pouvez, nous quittons les groupes armés externes pour entrer dans les groupes armés internes. Nous avons fait, la fois passée, nous avons écrit au gouverneur de province, son excellence Carline Ndongo-Kasivita, une pétition dans laquelle nous avons démontré 4 opportunités. Madame, si ces 4 opportunités sont exploitées par le gouverneur de province, par le président de la République, je vous assure que dans les 6 mois qui arrivent, le phénomène groupes armés internes va disparaître en République démocratique du Congo.
Quelles sont ces opportunités?
C'est pour être la disponibilité des combattants à pouvoir quitter la bourse. Ils sont très nombreux qui veulent quitter la bourse, mais il n'y a pas un cadre effectif pour les recevoir. Mais par ailleurs, le gouverneur du Nord Kivu et le gouverneur du Sud Kivu ont signé un arrêté interprovincial d'une commission de désarmement, démobilisation et réinsertion. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'effectivité de cette commission-là tarde à venir. Ça veut dire que les combattants qui sont prêts à quitter la bourse n'ont pas un cadre efficace pour les accueillir, les démobiliser, et les désarmer et les réinsérer. Alors que d'autre part, et c'est la troisième opportunité, les partenaires dans ce processus-là sont très disposés. Nous avons été dernièrement dans une réunion avec la MONUSCO, la Banque mondiale, et autres et les autres qui sont très disposés à accompagner la République dans ce processus-là, mais à cela il faut ajouter la volonté, le discours du chef de l'État qui a promis de restaurer la paix et la sécurité de la province de Nord Kivu. Moi je pense que ces 4 opportunités mises ensemble, si elles peuvent être vraiment exploitées par le président de la République, par le gouverneur de province, ce qui est vrai, c'est que les groupes armés au niveau interne disparaîtraient. C'est autant sur le plan externe. Évidemment, admettons que dans les groupes, dans les mouvements que signale le commandant Sokola, il y a plusieurs nationalités. Mais il faudrait qu'au niveau de la diplomatie, que notre diplomatie soit tellement dynamique, efficace et agissante pour que des contacts soient pris au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, pour que les autres pays également interviennent et comprennent que la persistance de l'insécurité de la partie est de la République est une menace, peut être perçue comme une menace pour le reste de la région, et cela amènerait les autres États à pouvoir intervenir. Quant à la MONUSCO, moi je suis tout à fait d'accord. La MONUSCO a joué son rôle et la MONUSCO continue à jouer son rôle. Je me suis toujours rappelé lorsque le M23 a attaqué la ville de Goma. Il a fallu que le gouvernement puisse inviter véritablement la MONUSCO à jouer son rôle. Nous avons vu des drones sillonner le territoire de retour et apporter des informations grâce auxquelles le M23 a été défait. Pourquoi cette même coopération qui a accompagné la MONUSCO et le gouvernement lors de l'attaque du M23 ne peut-elle peut-être pas être rééditée dans le territoire de Beni? C'est là que je dis, nous devons nous poser la question, nous en tant qu'acteurs des institutions, sur la réelle volonté politique de mettre un terme à l'insécurité, non seulement dans les territoires de Beni, mais également dans les territoires de Walikale et de Massif, où il y a des groupes armés qui tuent les gens, où les femmes sont violées, dans les territoires de Lubero, où les groupes armés tuent chaque jour dans les territoires de Beni.
Merci,
Mesko
Jean-Paul Lumbulumbu Dismas Kitenge. Il y a aussi cette réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Wingolou depuis la ville de Kisangani. Je me demande jusqu'à quand va-t-on continuer à compter le nombre de personnes mortes dans la partie est du pays. La vie humaine est sacrée, les pouvoirs publics ont le devoir de le protéger. Peut-on affirmer que ceci ne figure pas dans les priorités de l'actuel régime? Parce que dans le jargon, on dit « celui qui contrôle la terre contrôle également ses habitants ». Est-ce le pouvoir de Kinshasa qui contrôle ou non la partie est? Ou alors peut-on parler d'un État qui ne remplit ne serait-ce que son premier rôle, celui de la protection des personnes? À mon avis, il y a lié que le président, M. Félix Tshisekedi, répond ses priorités.
Dismas Kitenge.
Merci beaucoup. Je pense que l'auditeur a posé une question. La première piste de réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut un engagement politique fort. L'engagement politique fort va se résumer par l'intéressement, donc la prise en compte de la question par toutes les institutions de la République. C'est pas seulement le président de la République, le gouvernement, les institutions provinciales, l'armée. Deuxièmement, il faut mettre le moyen.
Hein, les problèmes, aujourd'hui, pour les résoudre, il faut mettre le moyen. Il y a les moyens humains, les moyens logistiques, les moyens économiques, les moyens militaires, les moyens technologiques, maintenant, de faire la guerre. Hein. L'armée doit s'équiper suffisamment, l'armée doit avoir les stratégies nécessaires. Comme je disais aussi, il faut l'implication de population. Jamais une armée n'a gagné une guerre sans le soutien de ses populations. Il faut que les populations qui sont là soient entendues. Soit soutenu, renforcé aussi dans les capacités de protection et collabore suffisamment avec l'armée. Et quand la population peut-elle coopérer avec l'armée, c'est quand seulement elle sait que cette armée, elle fait confiance à son armée et sait que cette armée là est là pour la protéger. Il y a aussi le problème de l'implication de la communauté internationale. La menace à la paix, la menace à la sécurité, là c'est déjà une menace à la sécurité internationale. Et nous avons la présence d'une des missions onusiennes la plus robuste, la plus coûteuse. Elle doit prendre aussi en considération ces problèmes-là, mais il faudrait que les autorités congolaises. Donc voilà, c'est la conjugaison de tous ces éléments-là avec une détermination forte qui peut seulement amener à résoudre ces problèmes-là. Si on néglige les problèmes, on trouve que c'est un problème local. Hein. Les problèmes de Bin, c'est un problème national. Ça doit être considéré national, ça doit être considéré international aussi, puisque la paix nationale, la paix internationale dans la sous-région est perturbée. Donc le problème doit être pris au sérieux, valorisé au niveau, à tous les niveaux. C'est seulement à ce niveau, de cette manière-là que le problème peut être résolu. C'est pas un problème qui se pose à l'Est. On dit que c'est un problème de l'Est. C'est un problème de la République démocratique du Congo, où chacun de nous, dans la sensibilisation, dans la conscientisation de ce phénomène-là qui vient déstabiliser le pays, doit être considéré comme un problème national. Il faut l'implication de tout le monde, il faut solidarité nationale et internationale et les moyens nécessaires pour arriver, et je pense qu'on y arrivera vraiment s'il y a à la conjugaison de tous ces éléments.
Merci Dismas Kitenge, on va considérer cela aussi comme votre conclusion, monsieur le gouverneur. EDF Muet, on a notre groupe armé composé des combattants des différentes nationalités. C'est quoi la solution aujourd'hui pour essayer quand même pour faire que la paix revienne dans cette partie du pays?
Oui, madame, je ne voudrais plus revenir sur l'analyse faite par Kitenke. Il a parlé de...
Donnez plutôt des propositions. Faites plutôt des propositions.
Ma proposition, c'est de prendre la dernière conclusion de Bismarck Kitenke, qui a suggéré que la République considère que le problème des Bénis, c'est un problème de la nation. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, spécialement à Bénin, c'est une histoire locale, c'est une histoire déjà de Bénin. Je crois que cette analyse ne pourra pas nous amener à des solutions qui vont nous permettre de trouver la solution à la paix. Nous devons mobiliser les moyens de la République pour que l'armée soit à même, à cas utile, à répondre à toute provocation de quel criminel qui ce soit.
Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le gouverneur. Jean-Paul Lumbulumbu, votre conclusion.
Ma conclusion, ce que je demande au président de la République, évidemment, de décréter la situation sécuritaire au Nord Kivu comme une urgence. Et cela permettra à toute la République de tirer toute son attention vers le Nord Kivu. Les moyens seront mobilisés pour le Nord Kivu et je pense qu'à partir de cela, la question sécuritaire va trouver une solution une fois pour toutes. Et là, comme il l'a dit lui-même, il se sentira véritablement président.
Merci. Lorsque le Nord Kivu aura... Lumbulumbu, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.